Cascodeur Podcast, épisode 106. Bleu, blanc, rouge. Enregistré le 11 juillet 2014.
Bienvenue au Cascodeur épisode 106.
106.
106.
Nous sommes le 11 juillet. Ma femme, elle avait une 106 avant. Hein.
Vivons la 605.
605.
Non, on est passé à 307 après.
Il y a quoi
On aura des cannes d'ici là.
Des B9. Alors, ça, c'est trop.
Donc épisode sponsorisé par Peugeot.
Et bientôt Porsche, on attend.
Allez, un peu plus de flatteur.
Et ça sera la Porsche.
Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais ce mois-ci, j'ai eu 19 euros sur Twitter, sur Flatter.
Wow. Big up!
Champagne et Cascodeur, il y a aussi mon blog.
Non, pas champagne, on va pouvoir acheter un curly pour l'apéro.
Ça avait jamais dépassé, en gros, ça avait jamais dépassé 2 euros. Donc là.
Ouais. Ou alors, ça veut dire que sur ton blog, t'as enfin écrit un truc intéressant.
C'est possible, je me mets à écrire sur Vim, donc. Donc, je sais pas si vous entendez, mais on est tous dans la même pièce.
Oui.
Et c'est très rare.
C'est rare. Peut-être une fois par an.
C'est très rare qu'on soit tous dans un épisode.
Ouais, t'as essayé de m'exclure, là, pour plein d'épisodes récemment.
Ouais, c'est vrai,
à chaque fois.
Du coup, là, il y a que du groovy.
C'est un épisode, il va y avoir beaucoup de rire, car il y a eu un petit apéro avant.
C'est ça.
Oui, oui. Mais c'est quand même Antonio qui a bu le plus, hein, je précise. Il arrêtait pas de se resservir. Hein.
D'ailleurs, c'est même lui qui a amené la bouteille. Donc,
j'ai amené deux bouteilles et la deuxième, c'est Saint-Amour.
Oh. Je peux te faire un bisou.
Bon, enfin bon, on va pas vous embêter avec notre apéro. On va commencer sur les news. Alors d'abord Google I.O. On va faire court parce que en croisant les doigts, on devrait avoir un épisode de retour
spécial
Google I.O.
Google.
De gens voilà qui sont allés côté sphère. J'ai un peu de mal à synchroniser, mais idéalement on va faire cet épisode à la fois d'après. Donc on aura plus de détails. Donc je pense que c'est Guillaume, c'est toi qui aura.
Ouais, j'avais regardé un petit peu. Alors j'ai pas beaucoup suivi, donc de toute façon je rentrerai pas beaucoup dans les détails. Il y avait la preview de Android L, mais on sait pas ce que ça va être. Lollipop, je sais plus quoi. Enfin,
ah,
ils savent pas encore. C'est L. C'est la lettre L.
C'était large et les anciens téléphones n'allaient pas fonctionner avec.
Non, c'est pour les Américains, mais ce sera XL, ça. XXL. Donc, il y a eu la preview.
C'est censé être des gâteaux, non?
Ouais, alors des desserts. Donc déjà pour le cas, il y avait eu.
C'était KitKat.
On avait essayé que ce soit Queen Yaman. Il y avait des pétitions qui avaient été. Ouais, bien sûr. On était plusieurs à avoir posté pour Queen Yaman, mais ça devait être un peu chiant à dire ou personne ne connaissait à parler français.
Même en France, moi, je sais pas comment ça s'écrit.
Faut aller plus souvent en Bretagne. Et donc elle, du coup, on sait pas encore vraiment ce que ça va être comme nom. Alors pour l'instant, c'est juste elle. Avec le fameux, comment ils l'appellent leur nouveau design là ah j'ai oublié.
Material
design. Ils ont fait un site, je sais plus si c'est en PDF aussi ou pas, qui est super long pour parler du material design. Bon bah c'est un espèce de flat un peu amélioré avec des quelques ombres quoi, puis des petites animations sympas. Mais c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de bruit là-dessus par exemple. Donc ça veut dire tous ceux qui font des applis mobiles, tablettes, etc.
C'est dommage qu'on soit pas designer parce que quand on lisait des blogs de designers, les gens étaient quand même assez contents en disant que c'était quand même plus que le flat design, qu'ils avaient rajouté des choses intéressantes.
Parce que quand même le flat design, ben c'est flat quoi, c'est un peu triste. Donc là il y a un peu des codes couleurs, il y a aussi un peu la notion. Donc les ombres sont quand même de retour et tu peux avoir plusieurs couche, tu sais, de widgets, de tiles, de etc. et qui vont en fait suivant la profondeur, ben l'ombre est plus ou moins grande. Donc tu vas avoir un sentiment un peu plus de 3D puis de voir à quel niveau d'imbrication tu es.
Apple utilise le focus pour ça.
On revient en arrière. On revient comme avant en fait.
Mais après,
c'est
un éternel recommencement. C'est un éternel.
On donne des nouveaux noms.
Les bornes, je les fais. Mais si tu dans le web, c'était chiant.
Les bornes, c'était chiant. Avec les CSS qu'on avait. Ah non, on mettait des images parce que c'est trop compliqué.
Et non, là, c'est. Je pense que le flat, moi, je croyais pas non plus 100% dans le sens où c'est tellement flat que c'en est un peu triste. Et là, du coup, de revoir un petit peu cette notion de volume, d'ombre, etc. Je pense que ça devrait quand même améliorer la qualité. Mais,
En fait, peu importe le nouveau truc. Ce qui est important, c'est que ça change pour donner un sentiment de.
Voilà.
De mais pas, faut pas que ça change en mauvais. Alors, c'est ça qui est fort pour ces gens-là qui sont dans le design / marketing, c'est. Ils arrivent à anticiper les trends et tu trouves ça nouveau et celui d'avant.
Oui, ils créent
les trends.
Tu crois?
Oh oui, surtout. Les mecs ils sont malins.
Mais tu es un produit. Attends, tu veux dire Windows 3.1, c'est quand même assez plate. Hein.
Ah, fatalement, ouais.
Ça prouve bien que c'est pas un nouveau.
Et les bords étaient pas ronds.
Pas tellement.
Non, ils avaient les bords, ouais.
Donc il y a eu ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ils ont fait pas mal de choses au niveau du cloud, et j'avais noté en particulier, il y a Google Cloud Data Flow qui avait l'air assez intéressant, pour permettre donc de définir des data flows, oui, c'est très original, différents flux de données sur lesquels tu vas pouvoir agir, enfin on va dire MapReduce, mais à l'âge moderne.
C'est la suite de l'EAI qui s'est transformée en USB, qui s'est transformée en
SOA, c'est comme les microservices, hein, c'est le retour de SOA. Bon. Donc, Cloud Data Flow qui vaut le coup, là, dans les show notes, on a mis un lien vers un article d'InfoQ qui détaille un petit peu ça, donc ça c'est assez intéressant. Ils ont sorti une API pour Gmail, donc on a vraiment accès à tout le modèle, enfin des labels, des boîtes, etc.,
pas parce qu'il y a un mode IMAP qui marche plutôt pas.
Voilà, non, justement, le mode IMAP fonctionne, mais ne est pas très, comment on pourrait dire, pour être politiquement correct, n'est pas très.
Il est générique, il n'y a pas tous les trucs.
Voilà, il n'y a pas tous les aspects d'IMAP, et du coup, il est un peu limité. Donc, pour ceux qui s'y connaissent bien en IMAP et qui maîtrisent bien le sujet, leur outil de mail, etc., ils râlent tout le temps après IMAP. Donc là, du coup, autant faire sa propre API propriétaire spécifique Gmail plutôt que d'améliorer le support IMAP. Donc, c'est peut-être un peu dommage, mais en tout cas, pour ceux qui vont vouloir faire des applications au-dessus de Gmail, etc., les comment ils s'appellent, les box, je sais plus. Enfin, il y a eu plein de services autour du mail de Google. Du coup, je pense que ce sera plus simple pour eux de faire des applis assez sympas.
On va avoir un Getting Things Done sur Gmail, mon rêve.
Marche naturellement sans
tricherie,
sans bidouille,
sans machin. On en avait discuté, ça. Moi, je pense que fondamentalement, si tu mets ton Getting Things Done dans ta boîte à mail, c'est pas bon.
Parce que ton point de vue est pas mal.
Qui arrive et tu es en train de dire, ah, mais attends.
Unread, c'est quoi?
Exactement.
Ouais, moi, mon process, c'est ça. Je mets tout en unread. Oui. Tous les trucs que je veux traiter. Oui. Puis, de temps en temps, les trucs trop vieux. Bon, de toute façon, je sais que je ne pourrais pas aller. Ceux-là, je les marque
à ça. De toute façon, il attend plus.
Ah, mais dans Getting Things Done, il y a le trash qui est super important. Ouais, c'est au bout de 2 mois, tu dis, bon, en fait, la tâche n'était pas hyper importante.
Voilà, finalement. Bon, bref, il y a eu plein d'autres choses. Là, je l'ai pas mis dans les show notes, mais beaucoup de choses autour de Google Android Wear. Donc avec les montres connectées. D'ailleurs, je crois que j'ai pas vu beaucoup de tweets là-dessus, mais je crois qu'ils récupéraient des montres quand ils revenaient là, ceux qui étaient à la conférence, c'est ça?
Oui,
c'est
de LG, je crois, non?
LG, ouais. Non, si c'était LG ou c'était celle de Samsung. Samsung Gear Live, là. Bon, je sais plus. J'y étais pas, malheureusement. Donc je peux pas dire. Donc.
Non, mais Alexis va nous inviter, là. On travaille dessus, là, tout à l'heure.
Et, donc beaucoup de choses là-dessus. Et en tout cas, avec le design aussi, là, Android Material. Non, pas, enfin, ça y est, je mélange tous les mots-clés. Le design, Material aussi, on sent aussi que Google va essayer de pousser un peu plus sa couche visuelle, on va dire, au détriment de tous ceux qui rajoutent des surcouches au-dessus d'Android tout le temps. Donc ça, c'est peut-être une bonne chose. Et justement, sur l'Android Wear, j'ai l'impression que c'est que du design Material et t'as pas le droit de faire autre chose, j'ai l'impression. Donc voilà quelques grandes lignes pour ce dernier Google I/O.
D'accord. Sinon, il y a le droit à l'oubli qui a été implémenté du coup en France.
Ah, je croyais que tu avais oublié de le mettre dans les choses.
Non, je l'ai rajouté.
Le droit à l'oubli.
Et qui c'est qu'il avait rajouté?
Parce qu'on m'avait dit que ça manquait à les blagues dans les derniers épisodes.
Il faut oublier de temps en temps. Non, c'était, ouais, c'était moi qui l'avais vu passer. C'était au mois de juin, je pense, que ça a été rajouté, annoncé par Google suite aux directives européennes de mémoire.
Suite à un procès par l'Espagnol, c'est assez rigolo. Voilà. En fait, c'est un Espagnol qui, il y a, je sais plus, 6 ou 8 ans, il est gestionnaire lui. Hein. Il a sa propre boîte, il est gestionnaire, et sa femme avait déposé le bilan. Et déposé le bilan, donc il y a eu une annonce officielle pour dire que la boîte de sa femme avait déposé le bilan, comme nous en France. Ouais. Et cet article-là, de ce magazine-là, est en ligne. Ouais. Et donc, lorsque tu tapes le nom du mec, qui est un gestionnaire, en gros, c'est dépôt de bilan de sa femme.
D'accord.
Donc, ses clients lui disaient, mais moi, c'est quoi ce bazar? Êtes-vous un bon gestionnaire? Et il est allé voir le magazine, et le magazine a dit, c'est une annonce légale, elle doit être en ligne, retournez-vous vers Google, qui lui, vous met sur la première page de recherche. Et tout est parti de ce bonhomme-là, en fait. 6 années de plaintes, de machin, de bidule, et le droit à l'oubli vient de ce gars-là, puisqu'il a gagné le procès contre Google.
D'accord.
Plutôt pas mal.
Bah,
c'est un débat intéressant.
Oui.
C'est toujours pas que ça soit abusé non plus. Mais...
C'est ça. Donc là, ils ont mis en place un formulaire pour faire une demande de suppression de son référencement ou de ses données, etc. Enfin, de ce qui est publié par rapport à une personne. C'est un formulaire assez complet, justement, qui eux revérifient. Enfin, il y a tout un process derrière avec. Faut motiver. Voilà. C'est pas juste. Je dis tiens, je veux retirer telle ou telle chose qui me plaît pas, la photo où je suis pas beau et machin, etc. Mais faut que ça soit clairement justifié.
C'est pas le bon profil.
C'est intéressant de savoir.
Je peux avoir le profil gauche à la place.
Et ce qui permet de justifier.
Justement, c'est là que c'est.
En tout cas, la France est number one.
Ouais.
C'est la France qui a cliqué le plus sur le formulaire, ouais.
Oui.
Oh, ça m'étonne pas.
Ouais.
Ou
90% ou 90%. Il a cliqué sur forme ou il a cliqué sur la page pour aller voir.
Non, et remplir les formulaires. Enfin, Google, c'est pour.
Enfin,
c'est vrai qu'il est politique.
Google, c'est pris 50 000 de.
Ouais, j'allais dire, on sait combien il y en a.
Made in France, ouais.
Mais je me souviens, c'était une grosse proportion, en tout cas, de français. Ça, c'est sûr.
Bon, allez, on va parler, langage et Java. Et la JVM, pardon. Donc, premièrement, un petit article sur le post-PermGen de InfoQ. Alors, je vais pas aller dans le détail, mais il explique le metaspace, quels sont les avantages à pu avoir le PermGen, qui était quand même compliqué à configurer à chaque fois en fonction de, si vous utilisez des frameworks qui créent à la volée des nouvelles classes, si vous avez un redéploiement à chaud, etc. Cela dit, le PermGen, vous pouvez lui donner une taille maxi, parce que ça vous empêche pas les leaks de class loader ou des choses comme ça. Mais si vous mettez pas de valeur, en gros, ça va utiliser la mémoire physique. Donc vous allez peut-être avoir un OS qui va faire out of memory ou des choses comme ça. Donc je pense qu'on va avoir des nouvelles approches de configuration de la VM. Ça va aider, mais ça va pas être non plus forcément...
Je croyais qu'il y en avait plus sur Java 8, c'est ça, hein?
Ouais.
C'est ça.
Je croyais qu'il y en avait plus, et là, tu dis qu'on peut quand même le configurer.
Donc le PermGen n'existe plus.
Ouais. Ils ont remplacé par Metaspace.
Il y a la notion de Metaspace qui contient ces informations-là, notamment les définitions de classe. Et lui, il passe sur la mémoire, pas la mémoire Java, la mémoire native. Et donc c'est au-dessus, tu sais, quand tu démarres une JVM, tu lui dis maximum, mettons, 2 gigas. En fait, elle consomme plus parce qu'elle a des, elle utilise aussi la mémoire native pour ses propres trucs. Donc ça rentre là-dedans.
Tu peux contrôler la taille de ce truc-là.
Tu peux maximiser, ouais, parce que imagine si tu dis, si tu démarres une VM Linux à 2 gigas et que tu dis 1,5 giga pour la VM et que ton metaspace il commence à grossir sans.
Mais du coup, t'as les mêmes problèmes, t'es obligé de savoir de dimensionner comme tu dimensionnais ton
PermGen. Mais de toute façon, on est encore sur des OS physiques à mémoire non infinie, donc.
Oui, mais là, l'idée, c'était de mentionner un seul domaine qui était le heap.
Non, mais je crois qu'il y a des choses qui peuvent être libérées, collectées, qui ne l'étaient pas dans le PermGen.
Ouais.
Donc, normalement, c'est mieux, parce que.
Je crois que les définitions de classe,
n'étaient pas. Voilà, parce que à chaque fois que tu crées des classes en live, ça, le PermGen. Il a validé tout ça, alors que là, tu peux libérer au moins ça. Donc, normalement, c'est mieux.
Voilà, donc, je vous encourage à lire cet article, si ça se trouve, on n'a pas tout lu. Voilà, deuxième article sur Java 8. Alors, non pas la VM, mais le langage, sur la notion de optional. Alors, vous savez, c'est cet objet qui dit, voilà, je suis un optional de string, par exemple, et donc, soit j'ai une string, soit j'ai nul. Et en fait, optional a une méthode qui vous dit, est-ce que je suis nul? Donc, c'est une approche un peu plus, on va dire, type. Enfin, vous n'avez pas de null pointer exception, vous avez un objet qui vous permet d'accéder ou non à la valeur. Et dans le langage, avec des... Je suis en train de regarder l'article
administrativement. Mais... c'est comme Groovy, quoi. C'est un peu comme Groovy, l'opérateur.
Non, je crois pas qu'il y a l'opérateur. Il y a l'opérateur.
Elvis, non, c'est pas Elvis.
Donc, on a le Safe Navigation Operator. Hein.
Mais il n'est pas dans Java 8.
L'opérateur, non, malheureusement, ils l'ont pas rajouté. Ils l'ont rajouté dans CoffeeScript, dans C Sharp et même dans Swift. Apple l'a recopié.
Voilà. Donc, attends, je suis en train de regarder, du coup, qu'est-ce qui se passe comme, ah oui, il y a des méthodes du genre or else, else, machin. Donc, en fait, au lieu d'accéder à la truc, faut dire or else, machin. Enfin, tu accèdes à l'objet ou alors fais ceci. Donc,
mais en tout cas, ce qui est intéressant avec les optionals, c'est que voilà, si tu veux vraiment accéder à la valeur qui est embarquée dans l'optional, c'est que, enfin, t'es obligé de faire le traitement, c'est-à-dire if machin, enfin ou get or else, etc. Ça. Alors que avant, quand t'avais, on va dire, une simple variable ou un simple paramètre, ben il pouvait être nul. Et c'était à toi de dire if nul ou pas. Voilà. Mais si tu ne mettais pas, bah tu pouvais te péter une null pointer exception. Alors que là, ça permet aussi d'éviter.
Le problème du coup, c'est que là, c'est explicite, mais c'est beaucoup plus verbeux que les langages plus modernes.
C'est plus verbeux. Après, ça leak aussi dans tes API, par exemple, si tu veux.
Oui.
Alors après, c'est un choix.
Forcément, ça leak dans tes. Ah oui.
C'est un choix.
Par exemple, c'est non, ça leak par définition dans les API, mais c'est fait de manière très.
Au niveau syntaxique, avec le point d'interrogation. Etc.
Le but, c'est de rendre les API plus expressives, hein, c'est ça?
Bah, pas forcément plus expressives, mais plus safe, par exemple, quand t'as des références nulles.
Oui, mais pour celui qui utilise API, puisse savoir.
Bah, oui, c'est plus explicite, du coup. Oui. Donc, c'est-à-dire, au lieu de passer, je sais pas, t'as une méthode qui prend un paramètre, account, mais il faut qu'à l'intérieur du code, tu check c'est nul ou c'est pas nul, alors que je fasse ci ou ça. Là, tu passes optional account, et du coup, bah, t'es obligé. T'es forcé, je dirais, dans l'implémentation, de traiter ou pas le cas il est nul ou le cas il est pas nul. Quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Les copies.
Alors Emmanuel, et Java 8 va se baser sur Java SE 8. Qu'est-ce que tu peux en faire de ça toi, avec tes add-note nuls?
Ben on va s'embêter du coup. Ah sur le add-note nul, c'est une bonne question. Qu'on va déjà faire, c'est supporter optional pour que quand on met une contrainte sur optional de string, en fait, on applique la contrainte sur string et pas sur optional parce que ça n'a pas pas de sens. Donc on va travailler à ce niveau-là. Est-ce que il faudrait peut-être dans un annotation processor, on pourrait dire bah si c'est optional de string, ça sert à rien de mettre at note.
Bah oui,
tu es en train de te mentir.
Bah oui,
tu te mens à toi-même.
Tu t'automentes ton code.
Non, mais à voir, faut tester. Il y a peut-être des cas où ça a du sens, mais j'avais pas pensé à ça.
Encore une chose qu'il y a des casse-codeurs pour te faire penser à ça. Qu'est-ce que tu ferais sans lui?
Je vais noter tout de suite.
T'as pas déjà écrit bien, tu diras.
Voilà. Sinon, un autre article dans nouvel univers Java 8 sur les parallèles streams et les streams de manière générale. Et il y a un article qui explique, attention, les choses que vous demandez à faire en parallèle, faut pas que ça bloque parce qu'en fait, le pool est limité et le pool, en tout cas aujourd'hui, ne dit pas, tiens, ce thread est bloqué en IO, donc je vais rajouter un thread supplémentaire dans le pool, en fait. Il est défini et maximisé, ce qui fait que vous allez pouvoir potentiellement affamer, en fait, le pool de fork junk qui est utilisé en dessous quand on fait des parallèles stream.
Affamer, c'est beau.
Bienvenue du club de
affamer, c'était beau, ça.
Voilà, donc c'est un monsieur de Zero Turnaround qui fait cet article, je vous encourage à lire ça. Sinon, backport de Timestamp.
Yes. Et
de 3.
Oui.
Bref.
Comme vous savez, Java 8 vient avec une nouvelle API. Si je dis pas de bêtises, c'est dans le paquet JavaXtime, je crois.
Ouais.
JavaXtime.
Et c'est full of lambdas et des tas de choses comme ça, donc inutilisables sur votre Java 7. Mais le papa de Triton et Jodatime, hein, donc Stéphane Colborn, a fait un backport. Et moi, j'ai commencé à faire une muse avec. Bah, c'est rigolo parce que ça marche avec votre Java 7. Le package est le même et le but, c'est utiliser ça dans votre JDK 7 aujourd'hui, dans vos applis aujourd'hui, et le jour où vous passerez à Java 8, pour toute la partie dead time, ça se fera 100 heures apparemment. Donc c'est plutôt, voilà, moi j'ai commencé à l'utiliser...
100 heures ou 100 heures
without time.
Non mais c'était un jeu.
Justement.
Et donc pour ceux qui disent Jonathan aujourd'hui, ce sera intéressant de... passer à ça.
Pas forcément, je crois que dans la
il a écrit un blog, pas ouais. Forcément, pas forcément.
Parce que je veux dire, si ils veulent continuer à être compatibles avec plusieurs JDK, etc., ça ne servait à rien de passer. Mais par exemple, pour un tout nouveau, je crois, attends, c'était dans quel cas de figure? Oui, c'est pour un tout nouveau projet où il dit
qui compte passer à Java 8.
On sait qu'on va de toute façon passer à Java 8 très bientôt. Autant l'utiliser et après, ce sera juste de renommer les packages, les imports, je veux dire. Et puis, hop, ça fonctionnera avec Java 8. Donc, et surtout dans cette optique-là.
Et surtout un truc, nous, on avait des doutes, mais le backport fonctionne bien avec JPA parce que bah, au lieu de mettre une date, tu mets la local date et ça marche comme avant. Il faut mettre un type, mais ça marche en fait.
D'accord.
Donc le backport marche avec avec JPA 2.
Good, good. Retro Lambda dans le même thème.
Ouais, ça c'est. Je sais pas si vous vous rappelez quand même il y a quelques années, on avait Retro Weaver, Retro Translator, tout ça qui permettait de rajouter. Alors c'était quoi les fonctionnalités de Java 5 dans les 4, etc. Donc par exemple, je sais pas les génériques, les énums,
les doclets,
etc. Ah, oui, ouais, encore.
Un X doclet forever.
Et du coup là, Retro Lambda, ben en fait permet de compiler du code avec des lambdas, donc qui viennent en théorie que dans Java 8, mais de les compiler pour les JDK inférieurs 6, 7, etc. Ce qui fait que même par exemple une plateforme comme Android qui pourtant est limitée. Enfin, niveau API, niveau de langage également, pourra utiliser des lambdas dans le code et automatiquement sera transformé. Alors j'ai pas regardé exactement les transformations qu'ils font, mais bon, ils doivent créer des anonymous inner class, etc., qui implémentent les functional interface de manière transparente, et comme ça on a l'impression d'être à la mode et moderne et d'utiliser Java 8.
Non, la transformation, ça va être lambda.
Et n'oubliez pas qu'avec l'expression language 3, on peut faire des lambdas. Donc, vous pouvez, dans le JDK 7, vous pouvez prendre l'expression...
Moi aussi, JDK 7, VHS.
Vous pouvez prendre l'expression language processor et passer une lambda et ça marche. Donc, si vous voulez faire des lambdas en JDK 7, vous pouvez mettre ça dans des strings.
Ouais. Sinon, ça y est.
La nouvelle déception.
Ah non, c'est pas ça.
Déception 4. Jigsaw phase 2, c'est-à-dire qu'ils expérimentaient depuis 27 ans, mais là, maintenant,
c'est Jigsaw is back.
Et il a pas utilisé d'image relative au monde du train, ce coup-ci. Donc pas de, on prend le train en marche, le train est en retard, etc. Il a pas osé reprendre la thématique.
Alors, il y a un petit espoir parce qu'il dit bon, vu que c'est compliqué, on va pas attendre que tout soit parfait, on va commencer à le mettre dans le code, le comité dans le code, et puis on va améliorer au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça sera plus compliqué à enlever.
Ouais, c'est ça. Ouais. À la fin, ils vont pleurer parce qu'ils seront pas dans les temps et qu'il faut tout retirer parce que ça
manque. Mais, en tout cas, si on lit l'article de Mark Reinhold, certaines choses que moi je m'attendais à avoir déjà dans Jigsaw depuis de nombre d'années, hein, parce que là l'année dernière Java 1, etc. Enfin il y avait plus rien du tout dedans. Moi je me pointe à la session à Java 1, je me dis ah tiens on va avoir les nouveautés, comment on va pouvoir utiliser créer nos modules, etc. Comment les ségréguer, tout ça pour éviter qu'on se marche sur les pieds, tout ça. C'est super intéressant. Et à la fin j'étais vraiment sur ma faim justement, même dès le début, pas qu'à la fin. Et putain mais il y a plus rien. On pourra pas créer nos modules, on pourra rien faire. Et là, il redonne un petit espoir. Peut-être qu'en fait, si, on va peut-être pouvoir créer ses propres modules. Mais on laissera la gestion de dépendance aux outils comme, il y a même mentionné Gradle d'ailleurs, pas que Maven, pardon. Maven, Gradle, Ivy, etc. Bon, ok. Et on devrait pouvoir créer ses propres modules, ses propres...
Exposer une API.
Qu'est-ce que tu veux dire par exposer une API?
C'est dire, j'ai ces 50 000 classes et j'expose
ça,
la méthode...
Un vrai public, pas un public.
Il avait supprimé.
Au départ. Du coup, là, je sais pas si ça reste ça ou pas, vraiment. Donc, à voir.
J'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose.
Ouais.
Il y a un peu plus que le rien qu'il y avait jusqu'à présent. Mais
bon, faudrait faire un graphe des fonctionnalités, oh là là. Nombre de fonctionnalités au fur et à mesure du temps. Sur,
mais bon, sur des tests de marque. Si il délivre ce qu'il promet dans ce document-là, ce sera déjà pas mal.
Parce que à DevOps Belgique, là, en novembre, ils disaient ils vont modulariser le JDK. Ils vont créer un outil qui s'appelle J-Link, ouais, où tu dis je crée un JRE avec ça, 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 mais pas ça.
Ouais, mais c'est juste pour modulariser le JRE, pour le livrer, le packager toi-même. Bah,
bien sûr.
C'est pas pour tes modules.
Non, alors, mais coup. Oracle est hyper intéressé, puisque vous avez vu, depuis presque un an, ils sont vachement à fond Internet of Things.
Ouais, ouais.
Ils veulent mettre des JRE partout. Et donc, ils poussent des ça en se disant, ouais, je vais avoir des petits JRE que je vais mettre dans les puces. Mais nous, on s'en fout.
Bah, on s'en fout, ouais. Ça.
Nous, on voudrait un OSGI plus simple, sans la partie dynamique, sans la partie machin, juste la partie exposition, qui dépendance, des bien, modules, voilà, cette partie-là, c'est ça qu'on voudrait que ça soit standardisé, cette partie-là, pas la partie obligatoirement, runtime.
Ça, on une vieille API à la noix comme OSGI.
Et voilà, aussi.
Bon, sinon, Guillaume, vous avez corrigé le bug sur Safari, là, que j'avais mentionné.
Alors, donc, on a lancé la bêta de notre futur site du projet Groovy. Et donc Emmanuel rapidement nous a reporté un problème par rapport au scrolling sur mobile Safari. Ouais. Donc là on a sorti voilà le nouveau site, donc un peu style flat, évidemment c'est à la mode, et puis avec des petits boutons contribute pour que les gens puissent facilement nous aider à l'améliorer, etc. Donc on est très content de ça. On a restylé nos documentations, la documentation de référence. Donc là c'est on est assez content d'avoir poussé un petit peu tout ça.
Ouais, ça faisait longtemps que vous vouliez. Hein.
Ouais, ouais. Et puis.
Et pourquoi pas l'avoir mis dans Spring.io, etc. Vu que.
Eux
ils ont déjà un truc pas mal fichu. C'est quand même ça s'est vachement amélioré ces dernières années
Il a un look un peu plus business qu'avant, c'est normal. C'est volontaire.
C'est plus flat après, est-ce que c'est
business? Non, le fait que des Olius Groovy avec des noms de boîtes, le fait que
c'est un peu classique, les gens ils demandent bah oui mais qui utilise Groovy, alors si personne l'utilise, alors je me suis dit c'est moi qui ai mis ça volontairement.
T'as même pas cité Exo.
Il y était au début, mais après j'avais pas assez de place. Et du coup, c'était les big names que les gens voulaient, et ceux-là sont peut-être un petit peu plus connus.
Non, j'ai fait learn et documentation, en fait.
Au début, il y avait que learn, et puis un de mes collègues qui m'a dit, bah ouais, mais la documentation, ça ferait un clic de plus, bon. Donc je sais pas, c'est peut-être pas encore définitif, on va peut-être voir. Parce qu'il y a des sites où il y a les deux, il y a des sites où il y a juste documentation, d'autres c'est où il y a juste learn. À voir, quoi.
Il y a pas eu copie, éventuellement.
Non, bah, Bootstrap, Bootstrap forever.
Learn, download. Ouais, mais il y a pas documentation.
Ah non? C'est long, c'est pas Bootstrap.
Il y a pas div.
Comme dans Bootstrap.
Si, mais c'est pas Bootstrap. Là, c'est le web moderne.
Ouais. Donc, en tout cas, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Si vous avez du feedback à nous faire, ce sera le bienvenu. Si vous voulez nous aider à contribuer, à améliorer le site ou la documentation, on est preneur. Bon, après, à côté, voilà, on a fait une nouvelle version, 2, 3, 4, etc. Mais là, c'était surtout ça que je voulais mettre un petit peu en avant.
D'accord.
Et donc, tout le site est sur GitHub, c'est ça?
Et ouais, tout est sur GitHub.
Écrit en quoi?
Écrit en Groovy et Gradle pour builder. C'est un site, statique, quoi, généré.
Ah oui, d'accord.
C'était pas JBake ou je sais pas quoi.
Oui, au début, on voulait utiliser JBake. Et puis, finalement, au début, c'était assez statique. Donc, on générait juste les pages avec notre markup template engine là, ouais. Et puis après il y a certaines choses, ben par exemple je sais pas, la liste des livres, la liste des conférences, etc., qu'on a un peu externalisé dans un petit DSL en Groovy, et du coup finalement on a réinventé un petit peu notre outil de génération statique pour le besoin spécifique de Groovy, et ça se fait.
Autant dire, je suis super déçu, bien sûr,
parce qu'au début donc à un moment on pensait JBake, mais on pensait également
un wiki
comme
xwiki.
Et puis finalement, non, on a...
C'est logique, hein. Ce qui est logique quand on veut que ce soit participatif.
Alors
ils veulent pas que ce soit participatif.
Non, mais c'est suffisamment participatif avec GitHub et les boutons contribuer, tout ça. Donc ça, c'est pas trop mal de ce côté-là. Mais c'était aussi, surtout, parce que là, c'est hébergé aussi par juste un petit serveur qui fait aussi l'intégration continue, qui fait un peu tout. Alors on préfère un truc vraiment juste livrer du HTML plutôt que de rajouter encore un énième service sur notre petit serveur qui est déjà bien chargé.
Après, je sais pas si vous faites des trucs particuliers, mais sinon vous externalisez sur Google Pages et...
Alors, et c'est CDNZ, GitHub Pages Studio, voilà. Donc ça c'est une effectivement. Ouais, là, non. Et justement, c'est une des possibilités qu'on va regarder. Si ça tient pas la charge, c'est peut-être ce qu'on va faire. Parce que c'est vrai que là, ce qui est pratique, c'est que en fait le notre donc on utilise TeamCity et c'est JetBrains d'ailleurs qui nous sponsorise notre serveur, qui le paye tous les mois et sur lequel il est installé TeamCity pour l'intégration continue. Et en fait, automatiquement, ça build le site dès qu'il y a des modifs et tout. Ça le repousse, ça le republie et tout. Et du coup, tout est sur le même serveur, c'est super pratique. La documentation, bah, elle est buildée par TeamCity aussi. Et puis, on repointe à cet endroit-là et tout. Donc, c'est un petit peu plus simple que si on doit repousser après sur une branche sur GitHub Pages. C'est pas très compliqué, hein, on peut le faire.
L'avantage, c'est qu'ils font du CDN. C'est-à-dire que si on demande à des endroits, c'est Rapidos US et l'endroit.
Et justement, là, le serveur, nous, c'est un serveur qui est en Allemagne. Et j'ai eu une ou deux personnes aux États-Unis qui disaient que c'était lent. Alors, est-ce que c'est à cause de ça ou c'est autre chose?
Je demande à la NSA d'enlever un peu.
Bon. On continue peut-être d'ailleurs sur les langages avant de repasser sur parce qu'on a deux trois autres news. Donc il y a deux autres news intéressantes. Il y a la roadmap de Scala pour les versions à venir. Qui a été publiée. Donc c'est assez intéressant de voir ce qu'ils proposent de faire avec des dates bien précises.
Voilà, notamment un meilleur support avec les trucs Java 8 qui sont arrivés.
Voilà, avec les dates.
Ils parlent du support de Java 6, oui, non, jusqu'à quelle version. Voilà.
Mais sachant que pour la future version, alors du coup je sais plus, c'est de 12, c'est ça. Ouais. Vu qu'ils planifient de la sortir que début 2016, je crois, hein, c'est ça. Je l'ai pas sous les yeux l'article. Se débarrasser de 6 et voire même 7 en 2016, c'est pas déconnant.
Ça paraît
tout à fait raisonnable. Et après, l'autre grande news intergalactique, c'est la sortie de Golo 1.0.0. Donc, 2 ans après le début de Golo, notre ami Julien Pond l'a annoncé, la sortie de la 1.0.0, la première version toute ronde avec 1.0.0 de Golo. Donc ils ont fait un beau petit chemin depuis le début.
Julien, 92,8% des commits
du code, ouais. C'est presque un one-man show. C'est le one-man show.
Philippe, il me compte le nombre de fois où il est mentionné dans les casques couleurs. Pour une fois qu'on l'utilise avec son nom et pas son pseudonyme incompréhensible.
Il y a même Dan Allen, tiens.
C'est pour la doc, pour la part vue que c'est... ils utilisent Asky Doctor. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on a utilisé aussi pour la doc de Groovy, la doc de référence. Il y a de plus en plus de projets pour la doc, au lieu de Markdown, au lieu de, comment ça s'appelle, le truc XML. Desk Doctor. Docbook, etc. Il y a de plus en plus de projets qui passent à de la documentation avec ASCII Doctor.
Ouais.
Qui est vraiment sympa.
Sinon, rapidement, il y a Jean-Michel Doudou qui a fait la version 2 de son livre Développons en Java et qui est en ligne, en fait. On n'est pas obligé de tester en fait, du coup, c'est ça.
Méga tutoriel.
Elle a toujours été, je crois, pas. C'est une concurrence à la Bible. C'est la Bible, ouais.
Mais d'ailleurs, c'est étonnant que ce soit que 2.0, parce que depuis le temps qu'il travaille dessus, version 10, quoi, tellement ça a évolué.
C'est la version du 15e anniversaire de Développons qu'il a mis
en ligne. C'est combien de pages à la recherche du temps perdu?
Ah, je sais pas. Tu crois qu'elle l'a retrouvé du temps?
En tout cas, vous dites pas la news numéro 1, Jean-Michel Loulou a été élu Java
Champion.
Eh ben oui.
La félicitation.
Et il le mérite bien, effectivement. Quand on voit le travail accompli, c'est énorme. En tant que d'évangéliste sur Java.
Arriver à garder ça
en français.
Bravo.
Bravo.
Bon, en tout cas, il éclate le nombre de pages de à la recherche. Vérifier à la louche, je pense qu'il éclate. Ouais, un petit truc marrant, les exceptions.
Ah oui.
Je les ai plus sous les yeux.
Voilà. Où est-ce que je l'ai mis?
C'est en gros une javadoc qui a changé en gros la javadoc des exceptions, qui vous explique par exemple que l'arithmetic exception, c'est you are trying to use your computer to solve a mathematical problem that you cannot solve yourself. Read up on your arithmetic and try again. Voilà,
c'est une nouvelle réinterprétation, la signification des exceptions. Donc c'est un vieux truc, hein, ça, ouais. Ça a encore avec le look JDK, je sais plus, 4 ou 5 au niveau Javadoc. Mais ça m'a bien fait rire quand je l'ai vu repasser l'autre jour.
Voilà. Copyright 2005.
Ils ont 2005, pas un class coder à exception.
Ah.
Un class coder. Le class cast exception, c'est, tu voudrais rester dans ta classe ou ta caste, dans laquelle tu es né, etc. sinon, on va passer aux librairies. Alors, vous savez, chez JBoss, on aime beaucoup les systèmes de messages.
Vous en avez combien, maintenant?
JBoss MQ, JBoss Messaging, ActiveMQ.
C'est le middleware, on est combien de temps, ils l'ont
refondu. Les USB, on en a pas mal aussi.
Non, mais vous avez ça, ça.
Et donc là, il y a la,
on va dire le contraire.
Klebert de Succonic qui, de chez, de, d'OrnEQ, le lead, qui a proposé à la communauté ActiveMQ de dire, bah, vu que vous voulez réécrire, je sais pas quel broker pour je sais pas quoi, est-ce que vous voulez pas qu'on partage notre technologie? Et donc, les gens ont dit, ah ouais, ça serait super intéressant, etc. Donc ça, c'est le thread qui a lancé, donc il y a eu des gens, lisez ce qui s'est dit, et puis c'est le début, on va voir si ça fonctionne effectivement ou pas. ActiveMQ est super populaire. L'avantage d'OrnEQ, c'est qu'il déchire sa race en perf.
Ouais, puis scalabilité aussi, cluster, etc. Encore mieux que. Et la réécriture, parce que ça, j'ai pas trop suivi, mais la réécriture d'ActiveMQ en Apollo, là, avec Scalin et tout ça, ça a pas l'air de bien décoller par rapport à ActiveMQ. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent abandonner Apollo pour faire le meilleur du monde entre ActiveMQ et. Et OrnEQ plutôt que d'Apollo qui a pas l'air de vraiment.
En tout cas, c'est bien, c'est assez cool parce que c'est relativement rare de deux projets qui.
C'est pas facile.
Qui essayent de partager des choses.
Ouais, ben on va voir si ça fonctionne. Après, c'est vrai que ça vient un peu vu qu'on a chez Red Hat, on participe à ActiveMQ, on participe à OrnEQ, donc c'est vrai que c'est un peu plus facile d'encourager les gens à partager des choses. J'ai pas vu comment c'était passé en interne, donc je dis ça sans vraiment savoir, mais. Donc on verra.
En tout cas, ouais, je sais plus si le lien, c'est la discussion sur la mailing list.
Ouais,
donc qui explique pas mal justement.
Sinon, rapidement, un petit article sur les moteurs de templates en Java. Donc c'est classique, hein. Maintenant, les applis un peu modernes avec des clients genre, je sais pas, AngularJS ou des trucs un peu lourds côté client. Vous pouvez dire, bah, derrière, c'est du REST avec un moteur de template pour générer mes trucs. Et le gars dit, bah, 10 raisons pour utiliser un moteur de template. Et en fait, c'est par rapport au JSP. Donc, je savais même pas que les gens continuaient à utiliser les JSP purs et durs. Donc, ça m'étonne un peu. Bon, bref, en tout cas, il liste un certain nombre de candidats, FreeMarker, Velocity, Reason.
Non, dans Groovy, là aussi, on en a rajouté un template.
Et peut-être que c'est juste que c'est bon.
Par exemple, là, dans Groovy, on en a refait un nouveau, là, et qui dépote bien, qui fait les layouts, qui fait des fragments, qui fait tout ça, et qui est super rapide, aussi rapide, si ce n'est mieux que Velocity, FreeMarker et tout ça. Et justement, on a utilisé ce nouveau template engine pour le site de Groovy, par exemple.
Mais ça reste dans le domaine Groovy, du coup, c'est pas un truc qui est tu peux l'utiliser, c'est générique.
Par exemple, Spring Boot a adopté ce template engine là. Parce que c'est assez sympa, ça ressemble à des trucs style Haml, etc. Donc c'est assez sympa à utiliser. Non, ouais, enfin je les connais plus trop bien là, ceux-là. Là, les...
Bah, ceux-là.
En tout cas, il y a des.
Donc ça bouge encore, mais c'est vrai que c'est assez mature comme sujet parce que bon, il y a pas 50 millions de features.
Après, t'as la notion de template TypeSafe qui.
Bah c'est vrai ce que fait aussi notre template engine.
D'accord.
Parce qu'en fait, il est. Il y a des appels dynamiques pour générer tout ce qui est tag, etc. Parce que tu peux avoir n'importe quel type de tag HTML. Mais par contre, ce qui n'est pas code pour générer des tags, bah, c'est compilé statiquement et tu peux avoir des modèles type-safe de données. Donc quand tu fais, je sais pas, si tu utilises une variable que tu as passée en paramètre de ton template, bah, il va râler s'il y a une typo, si t'appelles une méthode qui n'existe pas sur ce type-là, il va râler.
D'accord.
Donc c'est voilà.
Bah ça c'est intéressant quand tu nous montres ça.
Ouais.
Et il y a une implémentation scripting Java JSR.
Non pas avec JSR 223 là.
Ouais.
Mais par contre ça si tu sais vu qu'en fait tu utilises peut-être l'API template de Groovy. Et non. Celle-là, non. Bon, ouais, c'est juste à partir de... Bah, faudrait voir comment on peut intégrer ça. Mais bon, ce serait pas très compliqué même de se refaire un petit JSR 223 au-dessus. Mm-hmm. De toute façon, ouais.
D'accord.
Alors, moi, j'ai entendu... ouais, il y a des rumeurs, des mails qui circulent, etc. Mais le spec lead de JSF, donc Ed Burns, à un moment donné, il voulait extraire Facelet. Ah. Et voilà, utiliser Facelet comme comme la nouvelle spec de templating et pas que pour faire des pages web hein, pour faire un petit peu de tout. Bon, voilà, je sais pas si ça se fera d'accord. ou pas, il en parlait fin d'année dernière.
Ah ouais.
Ouais. Ouais, parce qu'il brainstormait à Java 8, qu'est-ce qu'on fait pas et il y avait ce truc sur le tapis, mais enfin j'avais discuté avec lui là en début d'année et il était allé revoir les mecs d'Oracle et les mecs d'Oracle, pas passionné par ça. Hein.
D'accord.
Pas sûr que ce soit dans Java 8, mais en tout cas, lui, il pousse, donc peut-être.
Mm-hmm. Nous, on pousserait, on l'aiderait, ouais.
Ah ouais,
Moi, je trouve que c'est une bonne idée.
Et l'histoire aussi de la JSR MVC, là, ça va pousser ou pas? Parce que bon, c'est un peu idiot, quoi. Enfin, on en a déjà tellement, des MVC, etc. C'est quoi
Trust le... dans une JSR.
Ouais, non, c'est quoi? Je vois pas trop l'intérêt, en fait, de standardiser là-dessus sur MVC.
Oh, là, je pense que c'est justement pour dire, les Angular JS, etc., etc., utiliser un backend Java E en disant, on a des services REST, on a le contrôleur au milieu, et puis vous faites votre truc à vous. Je sais pas.
Enfin, l'intérêt me paraît un peu limité, je sais pas. À voir.
En tout cas, Spring vient finalement de réaliser que intégrer soi-même les dépendances, c'est compliqué. Et donc, ils ont sorti Java E, sauf qu'ils l'ont renommé Spring IO Platform. Mmh,
c'est ça. Ouais, c'est un peu vache de dire ça. C'est juste finalement certifier que telle version de tel projet Spring marche bien avec tel autre.
Ah, c'est vrai. On reboot. Non, vas-y, explique ce que c'est quand même. L'idée du truc.
Donc moi, en tout cas, l'idée principale de Spring.io, c'est donc de releaser, faire un train de release de tous les projets Spring avec des versions pour lesquelles c'est certifié que ça marche bien ensemble. Alors tu pourras toujours overrider si tu veux, tu sais, la toute dernière version de, je sais pas, même de, qu'est-ce que je vais dire, moi, Spring Integration, un truc comme ça. Mais là, donc l'idée, c'est de rendre encore plus simple la gestion des versions de Spring. Donc du coup, tu diras, voilà, je dépends de telle version de Spring.io, et ça te tirera les bonnes versions qui vont bien des dépendances Spring et des autres projets Spring. Après, bon, Spring.io, c'est un peu, il y a pas que ça,
parce
que
ça intègre Hibernate.
Parce qu'il y a toutes les intégrations data avec machin.
Exactement, de Spring Data.
C'est tout l'écosystème. C'est clair qu'on tire c'est une référence de base de tout ce qu'il y a dans Maven Central avec, qu'est-ce qui marche ensemble.
Enfin, pas tout Maven Central, quand même. Pas tout Internet, n'exagérons pas.
C'est un bon vieux bob.
Oui, c'est un bob que vous apportez dans un projet Maven, par exemple, ou dans d'autres d'ailleurs, pareil.
Ouais.
Pour importer.
Mais après, bon, Spring.io, donc, il y a effectivement cet aspect-là, mais c'est aussi un peu le lancement de toute la plateforme, du nouveau site, avec tous les Getting Started Guides, là. Ouais. Les User Guides, ils sont vraiment super. Ouais. Où t'en as, je sais même plus combien il y en a maintenant, mais enfin, peut-être une cinquantaine ou plus, j'en sais rien. Avec tout un tas de tutoriels super succincts, clairs, précis, pour, je veux faire du JMS, comment je fais, je veux faire du REST, comment je fais, etc. Et c'est génial quand tu veux, quand t'as, je sais pas, là, par exemple, là, t'en as sous les yeux, tiens, je veux faire des méthodes asynchrones, comment je fais, je veux accéder à du Mongo, DB, comment je fais, et t'as plein de petits tutoriels comme ça, succincts, pour faire une tâche bien particulière, et ça, c'est vraiment, je trouve ça assez génial. Quoi.
C'est ce qui manque, hein, de toute façon, il manque un Java E, .io avec de l'adoc, comment faire des choses simples. Mm-hmm. Java E, tu commences par où?
Ouais, c'est pas évident. Si, par acheter ton bouquin.
Ouais. C'est ça.
Il le fait bien! Il le fait bien!
Donc, le chef, le met à
l'ordre. Les 6 euros de dividendes qu'il va recevoir qui ont été
mais c'est vrai, oui, c'est un bon point. C'est pour ça qu'on a on a besoin de livres par exemple pour aborder un sujet et je pense que ça remplit un petit peu les trous qu'il y a pas forcément au niveau de la documentation en ligne
les guides sont bien faits parce que c'est vrai que tu les fais en 15 ils le disent en 15-30 minutes, c'est vrai que pour ceux que j'ai fait c'était bien ça, donc c'est vraiment, voilà, t'as vraiment un petit problème, tu veux découvrir un sujet, tu prends 15-30 minutes, c'est réglé. Et t'as compris
le truc, mal, généralement,
c'est vraiment bien.
Une bonne idée.
Après, ils ont fait quelques tutoriaux plus gros, il y en a que trois, là, des tutoriaux plus gros qui durent 2-3 heures, là, c'est des trucs plus longs. Mais voilà, ils ont déjà, je sais pas combien de dizaines, là, de guides. Beaucoup, ouais. C'est vrai qu'ils sont quand même bien fichus. Pour ceux que j'ai pu faire, ils sont, et puis voilà, en plus, comme tout est standardisé, comme tout est, et puis c'est bien fichu, ils donnent à la fois les versions Maven, Gradle, Tartampion, enfin voilà, donc, en plus, voilà, ils t'imposent pas de te dire, bah tiens, tu feras tout en Gradle, feras tout dans Eclipse, tout dans, voilà, ils s'imitent vraiment au sujet que t'es en train d'étudier et ils fournissent les briques, les exemples qui vont bien. Franchement, c'est bien fichu hein, là-dessus. Quand même, on peut pas dire.
Ouais.
On va passer aux outillages. Il y a Fred Bricon qui travaille chez, enfin sur Eclipse, mais chez JBoss, qui a fait un blog sur les améliorations qu'ils ont faites dans Eclipse Luna à propos de l'intégration Maven. Et c'est marrant parce que ça vient de régulièrement, en fait, Max Anderson dit, mais alors bon, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas Eclipse sur vos projets? Et donc, les gens disent, en interne, hein, ils disent, ouais, bah, c'est trop lent, nous, quand on intègre, voilà, le truc là-dessus, c'est, quand on apporte Wildfly, ça prend des heures, etc., etc. Et donc, ils ont bossé là-dessus, et ils ont amélioré, bah, le temps d'intégration, qui, quelques secondes, alors que ça prenait plusieurs minutes avant l'intégration Wildfly. Ils ont revu aussi un peu l'ergonomie, donc consomme beaucoup moins de mémoire. Ils ont désactivé le download des index Nexus qui prend beaucoup d'espace par workspace. Donc quand vous travaillez sur plusieurs versions du même projet, vous accumulez ça. Voilà, plein d'autres petites choses intéressantes qui ont été rajoutées et améliorées là-dessus. Bah grâce à Fred.
Mais on a le même niveau que IntelliJ ID. Enfin, est-ce que c'est la même intégration?
Ça m'étonnerait. Je sais pas, mais, par exemple, tu dois toujours installer des trucs en plus, retrouver tous tes trucs, tes providers, etc. T'as toujours les problèmes de lifecycle qui sont pas matchés, c'est ça? Tu sais, quand tu le fais, tu commences à avoir une tonne d'erreurs dans ton projet en disant, et tu dis, il y a une erreur là-dessus, clique là, cherche un truc, t'as pas de réponse.
Il y a une vraie différence, c'est que souvent les projets rajoutent des trucs spécifiques Eclipse
dans les
définitions Maven pour que ça marche. Alors qu'IntelliJ,
il y a rien à faire. Mais, moi j'ai pas retesté depuis longtemps, justement, pour tous ces problèmes.
Moi j'ai retesté il y a un mois juste comme ça pour m'amuser. J'ai essayé d'importer XWiki dedans, le POM, qui est un POM assez évolué. Ça pète avec des tonnes d'heures dès le début, donc t'as du rouge partout, des X rouges partout, et t'es vite fait, t'es découragé. IntelliJ marche nickel, c'est
pas possible. Ah oui, oui.
Donc ce serait bien si ça marchait, mais je sais pas si, j'ai pas l'impression que ce soit ce niveau-là encore.
Tester avec Luna.
Avec Fred, hein.
J'ai testé il y a un mois, donc un mois, je sais pas si c'est déjà,
C'est Luna, donc c'est assez récent.
Ouais, c'est récent, hein. Parce que, il a annoncé le 8 juillet la version 1.5.0.
Donc peut-être que j'ai pas testé ce truc-là.
Voilà, sinon Gradle 2.0 est sorti.
Yes.
Qu'est-ce qu'il y a de...
C'est une 2.0. Alors par exemple...
C'est majeur 2.0.
Nous, mes bonnes 2.0, on avait tout refait. Hein, franchement.
Qu'est-ce qui a été cassé
Non, bah par exemple...
Remarque, ils sont restés... Maven était aussi resté longtemps en bêta.
Il y a par exemple donc Gradle 1X utilisait encore des vieilles versions de Groovy 1.8.6 qui a été sorti il y a... pas 3 ans, un truc comme ça, non, je sais même plus. Donc là, ils sont enfin passés aux toutes dernières versions de Groovy. Il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient gardées en deprecated tout le long de la 1X. Donc là, ils ont fait le ménage. Ils ont amélioré la performance. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ça a été des améliorations continues hein, dans tout 1X. Et puis faire le ménage pour faire quelque chose de clean. Et avec une nouvelle version de Groovy dans Gradle 2. Et aussi, ce qui est intéressant à lire, c'est la roadmap de Gradle après la 2.0. Donc il y a pas mal de choses aussi, par exemple, qui ont été développées avec Google, en particulier l'équipe Android, qui avait besoin de pouvoir définir ce qu'ils appellent des flavors, c'est-à-dire quand tu builds un projet, alors c'est pas créer des sous-projets différents, mais par exemple, quand tu fais une appli Android, bah, peut-être que d'un coup tu vas vouloir générer une appli en mode debug, une fois ou pas en mode debug, ou avec une certaine architecture, etc. Donc cette notion de flavors va être assez importante dans Gradle 2. La manière dont fonctionne Gradle, en fait, c'est un peu jusqu'à présent en tout cas, et même dans la 2, c'est en deux pas. C'est-à-dire d'abord il lit tout ce qui est configuration, et après il exécute une fois qu'il a ce modèle d'exécution. Et là, ils vont faire tout en une passe, ils vont essayer de mettre des choses en cache et même de pouvoir partager les caches. Donc par exemple, quand tu auras lu ta configuration de ton build, donc ton espèce de comment on appelle ça, de graphe de tâches, de dépendance entre tâches, etc. Ils vont pouvoir le, en quelque sorte, on va dire le sérialiser, le cacher, le partager, de sorte à ce que bah, les build Gradle soient encore beaucoup plus rapides.
Que ça, ils en ont en un pomme.
il demande à Maven d'exécuter. Oh, bah, ça va vite.
Non. Et, donc voilà, il y a beaucoup de choses assez intéressantes sur Gradle après la 2.0, qui valent le coup. Donc, c'est bien de suivre ça.
D'accord. Sinon, IntelliJ IDEA 14, le Early Access Program est sorti. Et donc, visiblement, la couverture de code a été rajoutée gratuitement dans la version open source, ouais, communautaire.
Et aussi, donc elle est disponible aussi dans TeamCity. Quand on a TeamCity, ça utilise aussi la même code coverage. Donc, nous, utilisons TeamCity pour notre intégration continue, mais on a aussi la code coverage.
D'accord.
La même qui a, et qui marche bien. Avec des langages comme Groovy, etc.
Et tu as ça t'exécute, ça fait un coverage complet avec les tests fonctionnels aussi, ou c'est juste des codes coverage de tests unitaires?
Tiens, c'est une bonne question, je sais plus.
Parce qu'en général, finalement, c'est unitaire. Plus, ouais, c'est facile, mais la vidéo très difficile.
Parce que nous, c'est vrai que c'est plus que des tests unitaires. On n'a pas vraiment de tests d'intégration à proprement parler. Donc, je sais pas. À vérifier.
Il n'y a pas que le code coverage, c'est-à-dire qu'il y a la version community, il y a le structural search and replace, et le type migration aussi.
Qui sont, le structural qui est super intéressant, mais je ne sais pas si
c'est beaucoup plus
compliqué.
C'est dur à maîtriser. Ouais. J'ai déjà essayé quelques fois.
Moi, j'ai essayé, j'ai abandonné.
Ouais. Parce qu'une fois, je savais, là, je veux faire telle modification dans mon code. C'est à peu près tel pattern, etc. Et en fait, je m'aperçois que, c'est un peu plus sûr que ça. Et c'est pas facile d'arriver à bien matcher, toutes les structures sans en rater.
Parce que moi, j'ai cherché pendant des heures pour finalement voir que ça n'est pas possible. Ce que je cherchais n'était pas possible. Ouais. C'était pour du Javadoc. C'était remplacer un truc dans le Javadoc. Apparemment, c'est pas exprimé.
D'accord. Non, ouais, c'est plus pour le code que pour les artefacts comme la Javadoc, je pense.
Tiens, en tout cas, à Devox UK, j'ai passé un petit bout de temps sur le stand de JetBrains, en leur montrant l'utilisation de IntelliJ IDE sur un clavier français Mac. Et les mecs, ils en revenaient pas, quoi.
D'accord.
Ah, mais moi, j'ai une issue géante. Ils avaient pété des choses sur le Mac. Ils avaient pété des choses.
Certains raccourcis. Ouais,
raccourcis,
qui par défaut sont.
Ils avaient râlé, ils ont pas voulu, ils disaient tant pis pour eux, tant pis. Et je sais pas s'ils sont revenus, du coup.
Bah, le mec, il s'est même dit, on va peut-être acheter un clavier français, tu nous montres des trucs, on imaginait même pas.
Parce que du genre, naviguer d'onglet à onglet, c'est pénible. Donc moi, à chaque fois, je crée mon propre raccourci. Il y avait pour afficher les modules, donc au lieu, tu sais,
le projet de settings et le,
versus les modules. Ça, c'est pareil, je me suis refait encore un shortcut à moi. Il y a plusieurs trucs comme ça qui sont un petit peu pénibles.
Pendant longtemps, il y a eu le problème quand tu voulais faire un pipe. Je sais pas si tu l'avais eu celui-là. Tu voulais faire un pipe sur le Mac là, et ça t'affichait, c'était un raccourci d'un
help, etc. Oui. Voilà,
c'est plusieurs clés. C'est plusieurs clés qu'il fait.
Ouais, non, ils ont.
Bon, bah, faut se dépêcher. Vous voyez bien qu'il y a l'alarme du feu qui s'est.
Guide
2.
En plus, c'est un peu la même logique, c'est vrai. Dans le sens où Guide 2, alors ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti, ça fait un mois ou deux. En gros, ils ont,
D'ailleurs, il y a la 2.0.1, si vous
voulez. Oui, je crois, il y a des mises à jour depuis. Ils ont surtout changé les configurations par défaut de Git. Et il y avait des trucs un peu source. Alors je sais plus, alors moi je sais que je les redéfinissais par défaut dans ma config, mais je crois que c'est le push par défaut qui fait un push sur toutes vos branches quand vous faites un git push par défaut, puisqu'il est en mode je ne sais plus le nom de la valeur du git push par défaut, comment ça s'appelle, mais il fait toutes les branches d'un coup que tu as quand tu fais un git push, et là par exemple il se limite à la branche que tu es en cours. Ils ont mis par défaut le mode matching. L'option matching. Mais c'est plein de petits trucs comme ça, en fait, où ils ont simplifié les configurations par défaut, de manière à ce que ça se, pour l'utilisateur qui débarque, il se mette pas à avoir faire plein de configs perso pour se dire, mais non, finalement, moi, je veux, quand je fais un pouce, que ça, je push que ma branche courante, que quand je fais un pull, ouais, ça fait, alors je puisse faire le rebase ou pas, mais il y a tout un autre petit truc comme ça, où ils ont changé les trucs par défaut.
Ah voilà, oui, donc, et le git add, où t'as pu à mettre le petit grand A.
Oui, voilà, c'est que, voilà, ça. Voilà. Que des petits trucs comme ça, c'est des petits trucs, mais qui font qu'effectivement, ça te rend l'utilisation un peu plus simple, et les paramètres par défaut, que généralement, tu vas vite mettre dans ton git config, parce que t'en as ras-le-bol au bout de 3-4 erreurs, ouais, bah, t'as pu le faire, voilà. Voilà. Donc là, il y a toute une liste, on vous a donné la liste des...
Et sinon, il y a un article en français sur les différences entre git merge et git rebase.
Il existe en anglais et en français, il l'avait fait dans les deux langues, mais j'avais dû le mettre la version française, et il est quand même super bien fichu. Pour ceux qui ont toujours du mal entre le merge et le rebase, qu'est-ce que je fais, quand, comment, etc.
Moi, je fais plus jamais de pull. Je fais git fetch.
Je fais git fetch, oui, oui.
Plus jamais de merge.
Je fais rebase.
Moi, j'ai toujours rebase.
Moi aussi.
Git pull rebase.
Ouais, moi, j'ai git pull rebase.
Ah, tout le temps. Ouais. Bah, tout le temps. Et tire epic, je fais pas de merge. Je tire epic que
ouais, ce qui m'intéresse. Oui, tire epic souvent aussi. Beaucoup moins de merge. J'en fais très peu des merges. C'est pour ça que ça m'énerve quand GitHub propose par défaut des merges NoFF sur la UI. Et d'ailleurs, même quand ils donnent les commandes line, ils te le mettent en NoFF. Alors que 9 fois sur 10, je veux pas un NoFF.
Ouais.
Enfin, je veux justement faire un rebase. Mais ouais, c'est plein de petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que le merge versus rebase, bon, ça reste souvent un peu compliqué au départ quand on arrive. Et là, il y a un bon article, voilà, qui explique les cas, les utilisations, etc. Donc,
d'accord. Sinon, HipChat, c'est quoi d'abord HipChat?
Alors, HipChat,
c'est le truc de chat de Atlassian.
C'est ça, c'est l'outil de messaging qu'ils ont mis dans leur suite. Alors, je sais plus ceux qui l'ont codé ou si encore ceux qui l'ont racheté. Il était gratuit pour les petites équipes. Je crois que c'était jusqu'à 3 personnes.
Non, mais attends, ça fait quoi?
Alors, ça fait
comme de l'IRC, mais
ça fait de la vidéo et de l'audio.
Ça peut faire, mais alors justement pas dans la version gratuite, je crois. Ça le fait que dans les versions payantes.
Vidéo calling, recherche de l'historique des messages, tout ça, c'est dans la version non basique.
Et donc dans la basique, en gros, ça fait un IRC, hein, si ce n'est que c'est un peu plus orienté entreprise, ça permet de gérer les groupes au sein d'un domain name pour parler mail, etc. Donc on gère un petit peu son truc. Après, il y a tout un tas de clients pour Mac, Windows, enfin toutes les plateformes, les mobiles, les téléphones, etc. Et donc là, leur offre, et donc ça s'intègre bien sûr dans leurs outils. On peut directement communiquer depuis leurs outils avec leur HipChat. Et donc voilà, ils ont changé là leur mode de fonctionnement pour faire en version illimitée la version gratuite. Donc c'est limité dans la fonctionnalité gratuite, dans la version gratuite. D'accord. Mais c'est plus limité en nombre d'utilisateurs.
Enfin, c'est marrant, nous on utilise un truc qui s'appelle gitter.im qui en fait il se link avec tes projets GitHub, et donc tu as en gros une messagerie par organisation, voire une messagerie par repository, voire une messagerie que tu vas créer un channel spécifique,
ouais,
avec une interface sympa. Alors il n'y a pas du tout de vidéo, autre chose comme ça, c'est que du texte. Par contre, il y a l'intégration sympa avec GitHub.
Donc, si tu... ouais.
Bah, j'imagine si tu tapes le nom d'un commit, il va faire le lien.
Parce que HipChat, après, il y a plein de petits add-ons, de petits modules et tout ça. Et nous, on a ça justement dans HipChat. On a créé une communauté qu'on a ouvert. Maintenant, les gens peuvent discuter avec nous. Ouais. Et on voit les commits, on voit les pull requests, on voit les builds de TeamCity, on voit tout.
Ça, j'ai dans l'IRC aussi avec un bot.
Ouais,
ça revient à ça.
C'est l'IRC, mais
c'est juste
que c'est un truc plus moderne. C'est souvent, alors, Gitter, c'est, faut que tu fasses partie des commits ou des gens qui ont le droit de pusher dans le repo ou dans l'organisation.
C'est très limité,
voilà. Et donc on trouve ça sympa, c'est bien pour discuter, mais du coup on exclut
avoir 36 outils de chat sur le contexte.
C'est pénible ça.
Parce que là chez XPD, c'est pareil, on cherche un outil, mais pour remplacer Skype, parce qu'il y en a pour qui ça marche pas bien sur des Unix, ouais, etc.
Pareil.
On n'arrive pas à en trouver parce qu'il y en a aucun qui fait bien à la fois le texte, l'audio, la vidéo, etc. Il y a pas de remplacement aujourd'hui de Skype qui fait bien tout ça. Enfin, on n'a pas trouvé.
Même Skype est limité dans le sens où tu fais pas de bot.
Il passe bien les firewalls, il passe bien plein de conditions. On a toute une liste de requirements et en fait il y a qui répond.
Ouais.
Ou j'utilise ZNC maintenant comme truc tampon entre mon, donc je suis tout le temps en ligne dans IRC, et par contre bah tout ce quand, et après je connecte 0 ou 1 ou plusieurs clients à ZNC qui lui me rejoue l'historique par exemple.
D'accord. Ah, c'est bien ce que il y a. Ah, parce que le problème c'est qu'on n'a pas l'historique.
Bah, sur IRC, il faut un bot pour avoir l'historique, donc c'est toujours. C'est, voilà, donc, chaque outil a son.
C'est à quelqu'un qui se connecte en
client IRC.
Dans mon, oui.
Ah, c'est trop cool.
J'ai
ça.
Plusieurs configurations. Ça s'appelle ZNC, c'est open source.
Bah ça c'est
le petit épisode. Il s'appelle BNC for free qui fait ça pour Freenode et des trucs comme ça pour gratos.
Et donc il y a des serveurs qui sont disponibles gratuitement.
ZNC tu l'installes, mais BNC for free, ouais, c'est gratuit.
Ah, mais ZNC, donc, mais il doit y avoir un serveur pour souvenir
oui,
de ce que
tu installes. Oui, tu le mets quelque part.
Oui, bah, oui, sur un serveur chez toi, c'est ça.
Voilà.
Il n'y a pas de serveur hébergé par quelqu'un déjà.
La BNC for free, ça fait ça.
BNC.
BNC 4. Okay. Et sinon, je vois que donc Vincent est en train d'installer Git avec l'installeur Git sous Mac. Et donc moi je peux aussi lui recommander d'utiliser Brew et le faire un Brew install
Brew update, Git,
et ouais, comme ça mettra voilà un jour automatiquement sans avoir visiblement tu utilises pas Brew du tout, c'est
du
ça
du tout.
Brew install Git, c'est parti. Ouais,
parce que Brew l'avantage j'ai pas dû le mettre dans les show notes, mais il y a aussi génial. Une version pour les applis lourdes, enfin les applis clientes, les
commandes,
MacVim, voilà, etc. Donc ça s'appelle Casque, si je me souviens bien.
Ah
c'est
oui,
Brew Casque.
Et ça s'installe où? Ça a un truc particulier à Brew?
Brew, ça met dans user local
je sais plus quoi, ouais.
Ce qui fait toujours peur, c'est quand tu les installes de plusieurs façons, j'ai l'impression que c'est pas forcément mes endroits, c'est où tu en es,
c'est pas... c'est pour ça qu'il faut toujours utiliser le même. Si tu passes à Brew, le but, c'est de tout installer Brew. Et moi, je sais que par exemple, j'ai un script shell où je référence dedans, bah, toutes mes installs Brew. Et donc, je peux, sur mes deux ordinateurs, etc., rejouer automatiquement les installs de Brew, les updates, etc., et d'avoir le même environnement, les mêmes outils sur les deux, et que ça soit autant aujourd'hui les lignes de commande que les outils, bah, les Chrome, les machins sont installés par Brew. Chrome, même Skype, etc.
J'ai peur que ça m'installe des tonnes de trucs que je veux pas en dépendance et que je contrôle pas.
Bah, tu vois, je viens de faire un Brew install Git. Je fais un Git version, j'ai toujours la 1.8.4. Voilà. Donc, j'ai peut-être installé à la main et il y a peut-être un peu de
Git.
Flûte.
Moi, j'ai pas eu de problème.
User local, machin.
Ouais, c'est pas l'air de faire du support, là.
Bon, bref.
Si, bon, on va sauter l'architecture, c'est encore les microservices, on s'en fout. Il commence à y avoir un backslash un peu sur le
microservices,
les mises de bord.
SOA, le retour, tout ça. Ouais.
Au niveau, donc, ça, on s'en fiche. Ouais, vous connaissez Hack4France?
Oui.
Oui.
Non, je n'ai pas.
Bon, moi, j'ai entendu parler de jour où ils arrêtaient, quoi. C'est pas Hack4France.
Non.
Je connais pas.
Hack for France. Alors, je sais pas pourquoi ils disent d'ailleurs Hack for France, parce qu'en gros, c'est fait par l'Epitech plus des boîtes genre Microsoft, Bouygues, Total, etc. Ils exposent des API et les gens doivent utiliser ces API, c'est ça?
Peut-être. Je ne sais pas.
Voilà, il y avait une conférence API grand compte. Alors je sais pas si, alors peut-être que Total expose des données et tu joues avec ou des trucs comme ça. En tout cas, ils ont fait leur grande finale le 8 juillet et ils avaient démarré depuis janvier ou février et j'en avais pas du tout entendu
parler. Pareil.
Bien joué au niveau de la com.
Ah bah c'est ça de taper dans les grands comptes. C'est marrant, ils ont des API grand compte et après ils ont des API startup.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est un peu dommage,
Ah, et il y a les API de grands frères aussi. C'est rigolo. Avec nos potes de Aldébaran.
Et si nous, on faisait les API grands podcasts?
Grand frère,
petit frère. C'est dommage.
Non, mais c'est non, dommage qu'ils n'aient pas parlé à nous de médias. Visiblement, ils en parlaient sur développer.com, mais
ouais,
il n'y a pas que développer.com, les gens.
Non. Oh, hein. Il y a les cascodeurs.
Ouais, mais il y en a d'autres, hein, des univers. Voilà, sinon en infrastructure, Docker 1.1 est sorti, alors je sais pas ce qu'il y a de nouveau,
mais il y a des trucs. J'avais regardé.
Bon, on se fait rapide, là, comme les quick news de nos amis anglophones. Sinon, le Fairphone, tu veux en parler?
Le Fairphone. Non, j'ai...
non,
Non, mais parce que j'en parlais hier. Oui, en fait, j'ai acheté un Galaxy S5 il y a 3 jours. Je me suis dit, ouais, mais c'est de la balle atomique et tout, c'est super. Et j'étais au boulot hier, donc, et je leur montrais mon super
S5. Tu te la pètes, quoi.
Je me la pète avec tous les machins, les bidules. Et puis un mec me dit, ah bon, moi, j'ai commandé un Fairphone. Et l'autre mec, il dit, ah ouais, en fait, ils sont deux. Ils sont deux dans une équipe de 15. Et,
FIRE.
Donc, FIRE Phone. Et ils m'ont expliqué le principe et je suis allé voir sur leur site. Déjà, c'est du crowdfunding. Donc, ils ont payé un téléphone qu'ils auront dans 6 mois. Et le Fairphone, c'est toutes les pièces sont échangeables. Donc tous les capteurs, tous les machins, c'est fait avec
déjà tout le mining. Enfin, en fait,
tout le mining, oui.
C'est des endroits où il n'y a pas de conflit, du genre en fait il y a certaines terres rares qui sont nécessaires, voilà, pour ces téléphones là et ils sont pas été piqués au, je sais pas quel endroit,
un endroit où il y a un conflit,
Soudan, et les ouvriers sont bien payés,
il y a forcément un conflit.
Et les ouvriers sont payés, ils ont une mutuelle, ils ont une retraite, enfin bon,
ils sont sous-payés mais avec une mutuelle, d'accord.
Et ils montrent la structure de coût aussi, alors je sais plus où elle est, je crois que c'est dans le blog. Si vous cherchez, il y a leur structure de coût, et donc ils expliquent le pourcentage de combien coûte quoi, et le rapport, combien eux ils gagnent en partie R&D, partie revendeur, etc., etc. Donc c'est,
Et le téléphone est plutôt pas mal, hein. Alors l'OS est un peu vieux, c'est un Android 4.2. Mais c'est plutôt pas mal comme bon voilà, donc j'ai acheté le S5 avant de connaître le Fairphone, peut-être que le prochain ça sera un Fairphone, enfin on sera pas tout de suite.
Ouais, tu veux te débarrasser de ton S5
Voilà, sinon c'est les vacances, donc il y a des petites blagues sur les vacances, notamment le stress avant les vacances, ensuite vous relaxez, après bien. Vous checkez les emails, donc ça remonte un peu, ensuite vous dites ah, tout ce que je vais devoir faire quand je reviens, pourquoi vous dites non mais c'est bon, il reste il y a d'autres choses dans la vie, ensuite bon, vu que vous faites rien depuis 3 semaines, vous dites à quoi je sers, etc. Et puis, vous pensez peut-être que je vais pas retourner au boulot finalement, puis vous revenez, et là, pouf, votre stress remonte à donf, vous avez 5000, alors, si même ils mettent 350 messages dans la inbox, moi c'est pas
gentil. Ouais, c'est très gentil, c'est ça.
Et puis, là, vous réalisez que la plupart c'est des spams, donc le stress c'est calme, mais voilà.
Bravo, bravo, parce que c'est dur de, arriver à une minima.
Sinon, il y a un site web avec Hello Kitty, je sais pas à quoi ça parle. Paper Toys,
ouais, non, c'est, ok, Amy, c'est juste pour faire avec du papier, c'est avec du papier, du papier, classique, tu peux faire des petites figurines rigolotes, donc ils te donnent les modèles et puis bah tu découpes et puis tu colles, d'accord. Et tu fais plein de
petits, ça rappelle la Post-it Wars,
c'est
les casse-colleurs vieillissent,
ouais.
les enfants
on fait du paper toys,
c'est ça, faut s'occuper pendant les pauses déjeuner,
voilà. Sinon il y a un blog de Chet Hazel qui est ex-monsieur Android, UI, etc.
Pourquoi ex? Ex, pourquoi? Non, il est tout. Ben non. C'est Romain qui est, Romain est parti, mais il est toujours. Mais lui, il est toujours. Ça me semble bien.
Et il explique comment il fait ses présentations. Alors lui,
il explique pas beaucoup. Il dit justement, je fais rien.
Ben, il explique qu'il fait rien.
Ouais, c'est ça.
Mais il explique longuement
qu'il fait rien. Il explique pourquoi il fait rien. Après, il recommande certaines choses, aux gens, pas forcément de pas préparer. Lui, c'est un improvisateur dans l'âme, donc il y a des raisons pour lesquelles il choisit de faire ça pour donner un style naturel à ses présentations, mais voilà, c'est un petit peu long, c'est intéressant.
Voilà. Tout le monde n'a pas son aisance, hein. Après, voilà, c'est son cas personnel.
J'ai lu, enfin pas tout, j'ai lu une partie, je me suis dit, j'ai pas tellement appris pour présenter mieux de mon côté, en fait.
Et lorsque tu lis les présentations zen, etc., eux, c'est l'inverse. Tu bosses, tu répètes.
Mais alors, en fait, le truc, c'est soit tu répètes, mais tellement qu'après, ça devient naturel et que t'es libre de dire d'autres choses pendant tes slides. Moi, j'ai tendance à faire ça. Soit tu prépares pas et t'es hyper naturel, mais bon, des fois, tu te vautres, surtout ton niveau du temps. Si t'es entre les deux, en fait, tu vas lire ce que t'as préparé, limite lire le texte, et c'est de la merde. Voilà. Soit vous préparez bien, soit vous préparez pas du tout.
Alors en fait, sur toutes les photos, on le voit, il est tout le temps en duo avec Romain. En fait, lui, c'est zen, c'est parce que c'est Romain qui fait tout. Il faudrait le même blog post sur Romain pour dire pourquoi moi je bosse comme un taré pendant 6 mois à préparer une presse.
parce que
mon speaker, on fout pas une rage.
Sinon, il y a Bootstrap, alors là, vraiment flat. Ça s'appelle Bootstrap.386, parce que je vous rappelle, c'est 8.3, les noms des fichiers. Et c'est Twitter Bootstrap en
TurboVision, non? Ça ressemble à TurboVision.
En gros, c'est des lignes de la UI, mais texte. Et quand vous rafraîchissez, vous allez voir, il y a le rafraîchissement.
Qui s'affiche.
Et donc, je sais pas comment il a fait ça, mais ça,
c'est sympa. Je sais pas, c'est génial.
En tout cas, c'est sympa. Je sais pas si ça a été hard-codé ou si on peut littéralement appliquer le Bootstrap
sur n'importe quel site, je sais pas.
Ça serait marrant.
C'est vraiment d'aller voir, c'est marrant. D'ailleurs, il est quand même responsive, hein. Donc, si vous allez sur un navigateur, il y a le Bootstrap responsive.
Et... enfin, quelqu'un qui fait des sites plus moches que les miens.
C'est le nouveau trend 2015.
Sinon, il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Bourgault qui s'était dit je vais faire un petit projet dans mon coin, essayer de lancer une start-up, voir comment ça arrive, et il fait un retour là-dessus. Donc, il a abandonné. Et il explique non pas pourquoi il l'a abandonné nécessairement, mais les choses qu'il a appris, notamment que la partie code, c'est un tout petit morceau de la partie d'un projet. Il faut réfléchir bien avant. La UI, c'est hyper important. Le marketing, c'est hyper important, etc., etc. Et que quand on a que 10 à 15 heures par semaine à passer sur un projet, c'est très difficile. Donc voilà, c'est assez intéressant en termes de lecture. Ça va assez vite puisque c'est des bullet points.
Mais on en avait parlé il y a quelques mois, les fails cons, les conférences du fail où les mecs ils viennent, ils ont monté leur boîte.
Non mais c'est dit plutôt con
fail conference.
Non parce que sinon
non. Oh là là,
non mais c'est parce que vous disiez on peut les lire justement.
Oh là là,
ça y est, je vais sur le fameux wiki et
c'est reparti. Comment ça s'appelle c'est le dîner du mercredi soir, en fait, en France. C'est le coup. Bref. Tu voulais dire quelque chose, du coup Le débat, mais on va peut-être le sauter, c'était un gars qui dit en fait, on peut mesurer la difficulté d'un problème au nombre de tables qu'on a ouvert pour essayer de le résoudre.
Tiens, là, justement,
la vache, mais Vincent, il en a... T'en as combien, là? On peut mesurer?
Ouais, 40, non?
Oh, la vache.
Ah, je me force à refermer un maximum tous les soirs.
Moi, là, je suis que sur la console JBoss. Comment, en fait, accéder à la console JBoss en REST? Et j'ai ouvert pas mal de tables que là-dessus. La documentation.
Avec Google Chrome, même tous les tabs qui sont pourtant pas affichés, ils consomment quand même du CPU.
Ouais.
Et c'est pour ça, moi, j'essaie de commencer à baisser un peu l'utilisation des tabs parce que ça fait mal. Hein.
Sur Safari, c'est plus intelligent, justement.
Ouais,
c'est une machine plus puissante.
Ouais.
Il y a un truc bien quand même sur Chrome, c'est qu'il met un petit icône bruit quand il y a du son qui sort de cette...
Pour retrouver quand il y a du bruit.
Là, j'ai pas fait gaffe.
Ah, bah, là, tu peux pas voir.
Il
faut un écran 266 neuvième pour voir tous les tables. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est le Oculus. Ça, c'est plus large. Voilà, sinon alors j'ai un outil de l'épisode qu'on a utilisé la semaine dernière avec mon équipe parce qu'on sur Hibernet on a un certain nombre de benchmarks et là un des benchmarks sur lesquels on travaille, ce qui sature, c'est pas qu'on consomme trop de CPU, c'est pas qu'on consomme trop de mémoire, c'est que la création d'objets par seconde atteint la limite physique de la VM, c'est à peu près grosso modo 400 mégas par seconde, 400 mégas d'objets par seconde, c'est la limite qu'on peut créer, qui est liée au fait que la VM, elle crée les objets pas forcément toujours au même endroit, et surtout à la limite physique de votre bus qui est capable de... Et donc, comment tu fais pour éviter ça? T'essaies de pas créer les objets, mais s'il faut quand même les créer, t'essaies qu'ils prennent moins de place. Et donc, comment est-ce qu'on sait qu'un objet prend de la place ou pas? Vous savez? Non mais enfin vous avez une idée vaguement.
C'est
il y a de champ déjà.
On n'a pas le size off.
Voilà.
Parce que petit 1, on sait, un pointeur c'est 4 bytes, 4 octets. Un booléen c'est 1 octet. intéressant, mais c'est à savoir. Après, les longs, évidemment, c'est plus long, les intégrs, etc. Et donc, vous...
les shorts sont plus courts. Les shorts sont plus courts que les longs. Enfin, bon, on finit par faire une addition.
Et un objet, pour info, juste le fait d'avoir une classe, c'est 12 octets.
12 octets de base.
Voilà, d'accord. Alors ça, c'est si vous avez pas la... Si vous êtes sur 32 bits ou que vous avez la compression des pointeurs, parce que sinon, sur 64 bits, les pointeurs, c'est 8 octets. Ouais, c'est ça. Un tableau, c'est 14 octets, c'est 12 plus la taille du tableau. D'accord ? Donc, faut savoir quand on crée les machins. Mais même ça, ça suffit pas à expliquer la taille des objets. Pourquoi ? Parce qu'il y a des histoires d'alignement. C'est-à-dire que si je crée... En fait, il y a des faut que ça soit des multiples de 8 octets au final, au total. Donc, il se peut que... En mettant un integer et après un pointeur, par exemple, vous soyez, vous dépassiez cette limite-là, que votre objet il consomme beaucoup. Et donc il y a une librairie qui fait partie de OpenJDK qui s'appelle Java Object Library, qu'on peut lancer sur une classe compilée et on lui dit donne-moi la structure de l'objet, dis-moi si je perds de l'espace ou pas et dis-moi chaque chose ce qu'elle consomme en termes de taille. Et donc, on a utilisé ça pour optimiser une des classes qui était en critique en hotspot en termes de création et d'allocation pour économiser. Par exemple, on a décidé, il y a des champs d'état qui sont rarement utilisés ou utilisés dans des cas moins importants. Par exemple, uniquement quand on supprime une entité. Et donc, on a bougé ça dans une classe séparée. Ça nous permet de stocker cet état-là dans une classe séparée qui ne va pas être instanciée tant qu'on n'en a pas besoin et ça nous coûte un pointeur. Vers cette truc-là supplémentaire.
D'accord.
L'encapsulation...
Ça sert à rien. Non, mais tu fais ça sur une classe
Oui, bien sûr. Non, mais on en revient toujours au même truc. The right tool for the right job.
Et donc, Jol, donc, son petit nom, donc Java Object Library Layout.
C'est pas mal, ça.
Alors, c'est un peu roots encore. Hein. Il parle de snapshot dans Maven, mais en fait, faut mieux... Tu télécharges le truc, tu le compiles.
Ah oui, ils disent de compiler.
Moi, j'ai utilisé un profiler pour voir quand je faisais cet exercice.
Il te montrait l'alignement de la taille.
Je suis pas sûr qu'il ne montre pas ça. Il montre juste la taille des objets. Et sur un calcul, tu sais pas trop comment il fait pour le calculer.
Ouais. Voilà. T'as des mains dans le cambouis, alors, ou tu...
Non.
Non, ok, il n'y a pas de main dans le cambouis.
On va bientôt manger.
On a les mains propres, avant de passer au repas.
Je crois que j'ai vu quelqu'un qui voulait parler d'une con, c'est les gens de Bordeaux.
BDX.io. Le 17 octobre.
Toujours le même CFP, c'est-à-dire. C'est pas eux qui utilisaient Google Doc, hein.
Bref. En fait, là, il y a le Jug Summer Camp à La Rochelle le 19 septembre. Le BDX à, donc IO pour le 17 octobre à Bordeaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a le DevFest à Nantes le 7 novembre. Codeur en scène, ah bah oui, tiens, en fait, il y a nos amis du Jug de Rouen, ou le Normandie Jug.
CFP qui est ouvert de Rouen.
Oui.
Que t'es sympa d'ailleurs.
Il y a du monde, dis donc. Il y a plein de comptes.
Il y a trop de trucs en même temps. On peut pas dire je pars tout maxi, faire, tu vois, une semaine par mois.
Non, c'est bien, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, hein, tu me diras.
Est-ce qu'à l'IO, t'en as parlé? Ils ont ouvert les places et il y a des gens qui achètent, de ce que dit Nicolas. Et c'est le 23 24 octobre.
Les deux places Early Bird ont été vendues en 2 ans, c'est ça?
Bon.
Bon appétit.
Il y a plus manger.
Qu'à aller manger. Et les vacances, alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est une bonne question.
Un épisode ou pas?
En fait,
il faudrait... On peut faire ça en offline,
on voulait faire l'épisode Vim, tu vois, un retour sur Vim. Donc, on va peut-être essayer de faire ça, que tu pars quand en vacances, toi?
C'est enregistré, là, ou?
Ouais, c'est enregistré. T'habites où, tu pars?
Ouais, on verra ça.
D'accord, on regardera ça après. Avec un peu, alors, c'est soit Google I.O. aussi, une genre de sphère, on arrive à s'aligner, et soit le truc Vim, soit rien.
Et sinon, bah, quand même un grand merci à Alexis MP, qui par tweet vient de nous dire qu'il nous invitait tous à Google I.O. Oh,
tout frais payé.
En 2015, tout frais payé.
Première classe.
Hôtel, avion. Oh,
merci Google.
Merci Alexis.
Plus 10 000 euros de...
de cachet dépensé sur place.
Non, j'en parle parce que les cafés, ça coûte cher. Voilà, bah merci à vous de nous avoir suivis.
Bisous à tous.
Je sais pas s'il est long du coup celui-là.
Bonnes vacances.
Bonnes vacances.
Et voilà. Alors il pleut nous d'une force. Je vous raconte.
Ah oui là c'est incroyable. C'est le déluge hein. C'est le 14 juillet, c'est normal.
Juilletiste là.
Ouais. Ça ouais bah souvent le 14 juillet de toute façon.
Chouette le feu d'artifice.
Ouais là c'est mouillé. Ils vont se marrer les pilotes.
De toute façon Hollande à chaque fois qu'il fait un truc dehors il
fait. Notre président n'a pas de chance.
Allez toi. Ciao ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthemes.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.